bienvenue dans notre émission Parlons Foot 97.9 FM. Comme vous l'avez entendu, la musique du générique, la France est au Brésil. Et oui, ils se sont imposés hier contre l'Ukraine. Donc c'est un peu une émission qui va parler pratiquement que de ça en fait, hein. Donc voilà, on parlera de l'équipe de France tout au long de cette émission. On parlera un petit peu de la Coupe de France, parce qu'il y a quand même eu des équipes sartoises à jouer le week-end dernier, hein. Puis on parlera des autres résultats, hein. Et on parlera des journaux. Et donc voilà pour l'ensemble, le sommaire de cette émission. La France vainqueur 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Match difficile, on va commencer par toi Enzo, que penses-tu de cette qualification?
C'est mérité au vu du deuxième match, mais au vu du premier match, moi clairement je le voyais pas se qualifier hier.
Je pense que personne ne les voyait se qualifier.
Bon, moi j'y croyais, j'étais.
Je voulais, mais.
J'y croyais parce que je pense qu'une défaite au Stade de France, déjà c'était pas possible. Mais quand même, la France pas aller en Coupe du Monde non plus, je voyais pas ça. Et puis même, la France est toujours meilleure dans les moments difficiles. Donc. C'était peut-être important de perdre ce match. Au final, on a une plus belle qualification. Voilà, Nicolas qui est avec nous d'ailleurs aujourd'hui pour parler de cet événement, hein. Retour dans l'émission aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Que penses-tu alors de cette qualification et de cette victoire hier?
Bah, la France a réussi à faire en une mi-temps ce que l'Ukraine a fait en 90 minutes.
Une mi-temps? Ils ont mis les deux buts en deuxième période.
En première mi-temps, ils n'ont pas réussi à concrétiser les occasions. La France, c'est le premier pays déjà à avoir à rattraper deux buts.
En Europe.
Qu'est-ce dur à faire. Belle victoire à l'équipe de France.
Et ils ont réussi à passer le mur ukrainien qui était invaincu.
Faut dire aussi qu'il y avait deux défenseurs qui sont importants dans le dispositif, qui étaient absents, qui étaient suspendus.
Il y a eu carton rouge,
c'est
très fort.
Ouais, au match aller, Kucher, l'Ukrainien qui s'est pris un carton rouge, hein, où on peut dire qu'il était couché à ce moment-là. Mais on a eu aussi Koscielny qui s'est pris un carton rouge. Alors, c'est pas lui, c'est plutôt l'Ukrainien qui aurait dû d'ailleurs se prendre un carton rouge à ce moment-là, parce que c'est pas sur la même action que Kucher se prend ce carton. Mais il s'est pris le carton rouge et au final, c'était pourtant pas lui qui avait cherché. Est-ce que le carton rouge était mérité? Moi, je dis que oui, parce qu'il met quand même là une claque. Hein. Mais il aurait dû avoir carton rouge pour les deux.
Bah.
À partir du moment où tu le cherches, tu.
Il aurait pu. L'Ukrainien aurait pu avoir un carton jaune, parce que comme il va quand même aussi un peu simuler. Malgré la gifle.
Mais pourtant, l'Ukrainien n'a pas fait faute sur Koscielny.
Non.
C'est juste de l'énervement, en fait.
Oui, alors d'ailleurs, on va vous parler donc du match aller. Donc, victoire 2-0 de l'Ukraine. Une équipe de France peu enthousiasme.
Bah pas du tout, parce qu'ils faisaient pas un match de qualification à la Coupe du Monde.
On avait plutôt l'impression de voir un match amical.
Ici, vous voyez déjà pour moi.
Bah, les Français, eux, faisaient un match amical alors que l'Ukraine, eux, jouait absolument un match de qualification.
Je sais pas si vous voyez déjà, mais quand même, les statistiques de l'Ukraine, on en a parlé dans la dernière émission. Une victoire 1-0 à Wembley, c'est une équipe qui méritait d'ailleurs de se qualifier à la place de l'Angleterre.
Oui, mais après, ça aurait été l'Angleterre, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
Moi, je pense que. La France, ils se sont dit, ils nous ont jamais battus, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous battre. Alors, je pense qu'ils étaient plus confiants. Et dès que le premier but est arrivé, ça a changé.
Mais on est quand même dans un match de barrage, on avait plutôt l'impression d'être dans un match amical. Une équipe de France qui avait pas du tout envie, qui voulait pas jouer le ballon. Et si cette envie sur le terrain, c'était Ribéry, il était bloqué par trois joueurs ukrainiens à chaque fois. Donc aucune solution pour lui. Au match retour,
il n'y avait quasiment aucun.
Au match retour, jusqu'à la 22e minute, il a été bloqué.
Oui,
et
mais
quand l'Ukraine s'est encaissé ce premier but, il n'y avait plus personne sur Ribéry.
Puis après, il avait quand même toujours quelqu'un, mais après le carton rouge, il n'y avait quasiment plus personne, il avait l'espace.
Pas au bout de la 25e minute, parce que déjà dans les entre la première et la 10e minute, il fait déjà un centre assez fort devant le but. Il était déjà réussi à passer.
Qui aurait pu apporter le premier but?
Et je pense que la défense ukrainienne était complètement dépassée.
On va quand même l'avouer, je pense que la victoire au match aller était extrêmement bien. Une grosse équipe d'Ukraine qui aurait mérité une qualification dès le jeu qu'ils ont montré. Hein. Quand même une très grosse équipe qui a montré du jeu, qui a montré de l'envie, une rage de vaincre. C'était mérité lors de ce premier match. Hein. Par contre, on a vu une équipe de France au match retour qui méritait aussi. Hein. Même si les Ukrainiens ont fait mieux chez nous que ce que nous on a fait chez eux, je pense.
Je sais pas, parce que en première mi-temps, on avait bien tenu. On a eu quelques occasions. Bon, après, on s'était un petit peu découvert. Les Ukrainiens jouaient le contre. Bon, y a un penalty, bon, qui est discutable, je pense. Je pense qu'on a fait quand même mieux qu'ils ont fait chez nous.
Les Ukrainiens, dans le match retour, n'ont pas réussi à trouver les joueurs de côté. Et puis aussi l'avant-centre. Donc je pense que c'est peut-être, pour ça qu'il a, c'est peut-être ça qui leur a posé problème.
Je pense que pour moi, la charnière centrale a été trouvée. Varane Sako, ça passe moins que Abidal Kosciani. Mais normalement, si Kosciani n'aurait pas eu carton rouge, il remplaçait Sako.
Kosciani est très important dans cette équipe de France. Alors après, voilà, je l'ai dit lors de mes compositions d'avant, hein, que j'étais pas pour Sako dans l'équipe. Je vous avoue que je me suis trompé, parce que c'est quand même grâce à Sako aujourd'hui qu'on se qualifie. Il était là où il fallait. Donc.
Puis il mérite d'être l'homme du match.
Cabaye aussi.
Cabaye est très gros match. Mais c'est pas. Je pense qu'il n'y a pas d'homme du match français. Il y a une équipe de France.
C'est l'équipe qui est l'homme
du match. C'est l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a fait du jeu. Parce que quand même, après, il faut dire que ces trois buts, on les marque sur des récupérations. Le premier but, c'est le gardien qui la repousse, donc du coup Sako qui va la chercher.
Ça part d'un corner.
C'est pareil pour Benzema.
Non, d'un coup franc.
C'est pareil pour Benzema.
Benzema, non, c'est le français qui la dévie. Pour Benzema.
C'est Valbuena.
C'est Valbuena qui la dévie.
Au départ, c'est Pogba qui tire un peu dévié. Valbuena qui la prend de la poitrine. Il voulait peut-être faire un contrôle. Ça part trop loin. Benzema qui l'a.
En tout cas,
bon, il est hors jeu, mais il y a un but qui a été refusé pour la France.
Il y a eu un plus grand Piatov que ce qu'il y a eu un Loris en Ukraine.
Oh, c'est vrai que le Russe, ouais. Le premier but, il l'a vraiment pour lui.
J'ai envie de dire, oui, le deuxième but, bon, après un penalty, c'est un penalty.
Elle est puissante. Elle est puissante.
Il peut s'en vouloir. Par contre, le premier but, il est pour lui. Parce que le premier but qu'on se prend, il est inadmissible.
C'est vrai que Piatov a été bon pour son premier mi-temps. Une frappe sur Valbuena qui va chercher dans l'icarne.
Mais Piatov n'a pas été rassuré comme au match aller. Parce que ses défenseurs n'étaient pas très rassurants par rapport au match aller. Mais heureusement qu'il y avait Piatov, parce que l'Ukraine s'en prenait au moins 6.
Et comme nous, on aurait pu s'en prendre.
Et comme nous, on aurait pu s'en prendre.
En plus,
je pense que l'Ukraine méritait d'en marquer 4 chez elle. Parce qu'au vu des occasions, c'est l'Ukraine. Par contre, chez nous, on méritait bien d'en marquer 6-7 aussi. Oui.
Parce que au début, déjà, c'est parti avec de très bonnes intentions, ce match. Valbuena qui fait une frappe en lucarne, comme a dit Nicolas. Faut aller la chercher parce qu'elle est bien mise. Et après, il y a une frappe de Pogba. Bon, il a plus cherché à mettre de la puissance que de la précision.
Après, il y a tout ce Cabaye, hein. Cabaye qu'on a fait pas mal aussi. Et Piatov va chercher.
Ce soir, il y a deux personnes. Hier soir, il y avait deux personnes qui avaient tout à jouer. Le premier, c'est Benzema.
Et Cabaye.
Non, Cabaye, qu'il accepte. Je parle de deux personnes. C'est le premier, c'est Benzema. Benzema, les deux derniers buts qu'il a marqués, c'est des buts qui sont pas du tout décisifs. Là, il joue titulaire. Il doit être décisif.
Il y est.
Et il est décisif.
Parce que c'est lui qui remet les compteurs à zéro.
S'il n'était pas décisif, moi personnellement, c'était une personne que je ne voulais plus du tout en équipe de France.
Il est méritant quand on
que là il est décisif, réel. Donc là on voit qu'il a gagné sa place peut-être.
Non, parce que Giroud fait quand même de bons matchs.
Je parle pas de sa place de titulaire, mais il a gagné sa place pour rester en équipe de France.
Oui.
Et le deuxième qui avait tout à montrer, parce que moi je vous l'ai dit, j'étais sceptique, c'est Loris, parce que moi j'aimerais bien qu'on fasse jouer un peu Landro. C'est vrai, Loris, on fait jouer tous les matchs, ce serait bien de faire jouer un peu Landro, même
Landro, Mandanda. Oui, mais
en match amical, de faire jouer un peu tout le monde.
Il joue pas, tu peux pas les faire jouer des matchs importants.
Alors oui, mais bon.
Au moins des matchs
pour amicaux. Pour moi, Landro,
au moins les matchs amicaux.
C'est un très bon gardien et il mérite sa place
j'espère
de titulaire.
J'espère que lorsqu'on jouera au Brésil, là, lorsqu'on va aller au Brésil. Il y a, si on est qualifié, que lors du troisième match, il laissera jouer Landro, parce qu'il sait que ce sera la dernière Coupe du Monde de Landro aussi. C'est pareil pour lui. Ce serait bien de le laisser jouer ce match.
Mais ce sera la dernière Coupe du Monde pour plein de joueurs.
Puis pour tenir avec Lloris, il a complètement été transparent hier. On l'a pas vu du tout pendant le match.
Et il était très très fébrile, parce que sur ses prises de balles, on voyait cette peur de lâcher le ballon.
Le terrain aussi n'y prêtait pas.
Je pense que sur ce dégagement, il avait un peu peur de glisser.
Bah, Il a glissé une fois. Piatov aussi a glissé.
Avec un terrain.
Ils sont tous glissés. Mais le problème, c'est que cette erreur, c'est que voilà, les Ukrainiens, ne serait-ce qu'on leur met le doigt sur le bras, ils vont simuler. On a vu que de la simulation des Ukrainiens.
Mais vous,
et c'est les rois, parce que c'est ceux dans la phase Europe qu'on fait le plus de fautes. 174 fautes.
Déjà, plus celle du match.
Déjà avant le match. Avant le match aller, ils avaient déjà 11 cartons jaunes. Ils sont quasiment une équipe.
Et un carton rouge. Et là, du coup, deux cartons rouges en plus.
Bah moi, je suis plutôt content que la France soit qualifiée parce qu'elle est méritante. Oui, L'Ukraine était méritante, c'était pas un tirage facile. Pour moi, c'est méritant.
Une Coupe du Monde sans la France, ce n'est pas une Coupe du Monde.
Moi, j'aurais aimé voir l'Ukraine en Coupe du Monde.
Moi aussi.
Mais pas face à la France, parce que la France, bon, forcément, que quand vous êtes français, si vous êtes un vrai français, vous supportez l'équipe de France. Hein. Et donc voilà. Alors voilà, quand je reviens sur Loris, donc il avait quelque chose à jouer, il avait à nous prouver cette place de titulaire, mais surtout ce brassard de capitaine. Alors comme on l'a dit, il n'y avait pas un grand Loris hier soir aussi.
Parce qu'il n'était pas du tout inquiété.
Il a été inquiété sur les coups de pied arrêtés. Heureusement qu'il y avait la défense, parce qu'on a vu ses petites. Il a lâché les balles. Ou alors quand il les prenait dans les mains, il était très très fébrile.
Sur les coups de pied arrêtés en première période.
C'était les corners, c'était pas mieux tiré pour l'Ukraine.
Ils ont enchaîné. Moi, ils m'ont fait très très peur, surtout sur leurs corners. C'est pas les coups francs, c'est les corners. Ils me faisaient
surtout,
très très peur. Parce
surtout
que
dans les 10 dernières minutes.
Yarmolenko,
ils avaient beaucoup de coups francs. Coups arrêtés, tout ça.
Yarmolenko, Zuyola, ils ont raté beaucoup.
Mais. Aussi, nous aussi, on a été très dangereux aussi sur nos coups de pied arrêtés. Parce qu'ils ont pris quasiment ils ont quasiment dégagé aucun ballon.
Mais ils étaient très bien tirés aussi, Valbuena.
Oui.
À rappeler que les Ukrainiens, d'ailleurs, ça s'est échauffé dès le début avec Kabaï, hein, qui s'en prenait à Rotan, le capitaine.
Puis Ribéry, quand Edmar fait une faute sur un Français, Ribéry veut lui mettre un coup d'épaule. Ça c'est encore
ça, c'est des choses
par rapport
qu'il faut
au match
pas, aller. C'est des choses qu'il faut pas, qu'il faut surtout pas voir sur le terrain.
Edmar, moi je le trouvais extrêmement transparent comparé au match aller.
Le brésilien ukrainien était parce qu'il
naturalisé
est brésilienne.
Non, il est brésilien d'origine ukrainienne.
Voilà. En tout cas, une très grosse équipe. Pour vous, alors moi je reviens sur Evra qui a fait une très bonne. Je vais pas dire le contraire, il a fait un très bon match quand même. Mais je reste quand même sur ce joueur. C'est un joueur qui doit s'en aller de l'équipe de France. Ça, je reste sur cette proposition. Mais s'il y avait un joueur en équipe de France que vous enlèveriez, sans parler des gardiens, s'il y a un joueur de l'équipe de France que vous enlèveriez, par qui le remplacerez-vous? Et qui enlèveriez-vous?
Moi, j'enlèverais Loïc Rémy. Il a pas sa place en équipe de France.
Moi, je pense aussi que Rémy, c'est ce point faible.
Je pense que oui, Rémy aussi.
Alors, par qui
Il y a plein de bons joueurs qui méritent leur place. Des jeunes, par exemple Antoine Griezmann, quand il aura fini sa suspension.
Moi, il y a deux potentiels. Hein. Vous avez Griezmann et vous avez Gonalon qui a été écarté.
Ouais, mais c'est Gonalon pas le même poste.
Pas, Rémy plutôt côté droite.
Gonalon est central. Central.
Pourquoi pas aller chercher un joueur de l'équipe Espoir.
Touvin, oui, voilà. Paul-Georges
Entep, oui. Très bon joueur, mais faut pas non plus aller chercher trop jeune non plus, je pense.
Mais aussi, faut pas trop aussi les.
Il est très jeune.
Il a acquis un niveau international. Hein.
Varane.
Un très bon niveau international, Pogba. Alors que Thauvin joue avec Marseille, mais le niveau international, au niveau Ligue des Champions, ça c'est pas encore acquis. Entep ne peut pas être sélectionné parce qu'il joue à Auxerre.
Ah, si, il peut.
Il peut être sélectionné. Hein.
C'est pas parce qu'on est en Ligue 2 qu'on est.
Bon, après, c'est pas pareil que Marseille ou Paris.
Après, c'est sûr, tout le monde peut pas jouer à Juventus ou Real Madrid.
Mais bon, Varane et.
Varane, mais.
Et. Pogba aussi sont d'un niveau international parce qu'ils jouent dans de grands clubs, mais aussi ils sont entraînés par deux grands entraîneurs.
Alors, on reviendra sur l'équipe de France après. Par contre, là, on va parler. Tu vas nous donner les résultats un peu des matchs. On va commencer par les matchs amicaux d'ailleurs, qui se sont passés. De très belles surprises, des résultats. Normal, convaincant pour certaines équipes.
Ça dépend pour lesquelles, parce que quand on connaît le résultat de l'Espagne,
ça c'est vraiment
c'est un peu inquiétant.
Le gros résultat.
C'est même plus qu'inquiétant. Malgré qu'il ait pas mis la grosse équipe non plus, Del Bosque, il doit quand même s'imposer. Au moins le match nul.
Alors l'Argentine a battu la Bosnie 2-0.
Argentine, ce sera une équipe à suivre, je pense, dans ce mondial.
Oui, je pense qu'ils peuvent jouer le titre.
Moi, s'il y avait bien une des équipes Amérique du Sud, sans parler du Brésil, que je donnerais favori, ce ne serait pas l'Argentine, ce serait la Colombie.
Le Chili aussi
qui a fait un très gros match contre le Brésil. Mais je ne donne pas l'Argentine favori, je donne outsider pour ce mondial.
L'Australie bat le Costa Rica 1-0 avec un changement d'entraîneur. Est-ce que celui-là peut-il être payant pour l'Australie?
Oh non, je pense que voilà, c'est pas les matchs qu'ils ont eu face à l'équipe de France, c'est pas ceux qu'ils ont eu face au Brésil, c'est pas le Costa Rica, c'est pas du tout la même équipe.
Le Costa Rica est une très belle équipe.
Le Costa Rica qui fait pour la Coupe du Monde.
Ouais, c'est voilà. Ça, c'est vraiment c'est la surprise.
Surprise non, parce que il y a 4 ans.
Ça fait pas mal de temps qu'ils sont en Coupe du Monde quand même.
Il y a 4 ans, ils y étaient pas, mais.
Il y a plus surprise que ça. Hein, parce que, par exemple, l'Iran.
La Bosnie aussi. L'Inde a battu le Népal 2-0. 2-1 pour la Russie contre la Corée du Sud.
La Russie qui sera une équipe à suivre. Fabio Capello, un entraîneur. C'était dans le groupe du Portugal, le Portugal qui est pas
la Russie, une équipe nulle. Un bon outsider s'il tombe dans un bon groupe.
La Slovénie battue le Canada 1-0. 1-0 pour l'Écosse contre la Norvège. 2-0 pour la Turquie contre la Biélorussie. 3-2 pour Malte contre les îles Féroé.
Ça, c'est un résultat. Ouais,
et Malte menait 3-0.
Vous voyez, c'est des matchs qui font plaisir parce que bah, l'île Féroé a la chance d'affronter une équipe de son niveau. Et on voit un match serré malgré, voilà, vous voyez, 3-0, ils reviennent à 3-2. C'est des beaux matchs, c'est des matchs qui font plaisir à voir et c'est des matchs qu'ils prennent plaisir à jouer. Parce que affronter l'équipe de France, les îles Féroé, ça les intéresse pas. Perdre 5, 6-0, 8-0, c'est pas des résultats qui font toujours plaisir. Alors que là, ils ont la chance de jouer face à des équipes du niveau.
Parle de Matt et il Ferroé. Si Saint-Marin un jour veut gagner un match, bah c'est contre des équipes comme ça qu'il faut jouer. Hein.
Voilà. Je pense qu'on doit laisser. D'ailleurs, bah, je pense que pour la Coupe d'Europe, ils devraient tenter de faire, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, de faire un groupe de petites équipes pour donner
mais
cette chance.
Si les petites équipes se qualifient, ils vont pas aller loin en Euro.
Oui, mais c'est au moins la joie pour ces équipes de jouer face à des personnes de leur niveau. Après, voilà, ils vont en Coupe d'Europe, ils tentent leur chance, même s'ils savent qu'ils vont pas forcément se qualifier, ils auront eu leur chance. Et en plus, ils donneront une joie à leur pays d'avoir une qualification dans une grosse compétition.
Le Trinité et Tobago a battu la Jamaïque 2-0. 0-0 entre la Namibie et la Mozambique. 0-0 entre le Pays-Bas et la Colombie.
Ça, c'est, vous voyez, les Pays-Bas, je les donne même pas outsider pour la compétition.
Oh, non, favoris.
Non, pas favoris non plus.
Mais s'ils peuvent être favoris, ils sont finalistes, même s'ils ont fait un euro catastrophique, ils peuvent jouer encore une fois le titre.
Moi, les quand Pays-Bas, on voit la tête qu'ils ont.
Personnellement, voilà, il y a une belle équipe quand même, hein, une équipe qui a pas trop changé.
Mais... Ah si, elle a beaucoup changé justement. La défense a extrêmement
Robben,
changé.
Vous avez toujours Van Persie, vous avez. Les gros 4 sont toujours là. Quand
donc,
je parle de
Van Persie, hein,
c'est un match intéressant pour la Colombie à l'extérieur parce que déjà ils ont gagné 2-0 en Belgique. Donc nous, la France, on n'a pas réussi à y aller. Donc je pense que la Colombie peut être un outsider pour la Coupe du Monde.
Un favori.
Non, plus outsider.
Plus outsider.
Parce que moi, voilà, je donne pas l'Argentine favori, mais je donnerais plus la Colombie favori.
Ouais, la Colombie, maintenant, ils gagnent tous les matchs depuis qu'ils sont un peu 3e, 3e à la FIFA. Bizarrement, quand même.
0-0 entre la Pologne et l'Irlande. L'Autriche bat les États-Unis 1-0.
Alors ça, c'est inquiétant pour les États-Unis parce qu'ils commencent à avoir peur. Qu'est-ce que va devenir leur Coupe du Monde?
Sauf que l'Autriche est une très bonne équipe. Elle a failli
très bonne équipe.
Passer devant la Suède, il faut le rappeler.
C'était un groupe très très serré où vous aviez la Suède,
L'Allemagne,
l'Autriche. C'était pas un groupe facile pour chacune des équipes qui étaient dedans d'ailleurs.
Et l'Allemagne a battu l'Angleterre 1-0. Le calvaire continue pour les Anglais à domicile puisqu'ils ont aussi perdu le Costa Rica, je crois.
J'ai bien peur qu'il continue au Brésil. Hein.
À eux de se pour moi, je les vois pas aller au-delà des 8e.
Ils sont pas outsiders. Hein. Moi, je
suis favori en tout cas.
Pas favori non plus.
3-2 pour le Japon en Belgique. Deuxième défaite consécutive pour les Belges à domicile. Est-ce que ça peut être inquiétant pour le mondial?
Non.
C'est une équipe qui sait se ressaisir.
Voilà, ils affrontent la Colombie. On sait que la Colombie est une grosse équipe. Après, ouais. Voilà, ils ont eu des occasions. Ils ont eu du jeu, ils affrontent le Japon. Le Japon, on connaît le style de jeu qui est différent de toutes les équipes qu'il y a au monde. Le Brésil est plus un jeu technique. Eux, c'est un jeu totalement différent de toutes les autres équipes. Et vous avez un Japon qui a un très très beau visage, que moi d'ailleurs, je donne outsider à la compétition. Et vous avez une équipe de Belgique, bon, bah là, perdu. Mais c'est une défaite pas forcément inquiétante, puisqu'il y a du jeu de chacune des deux équipes et il y a des belles choses.
Et le dernier match, l'Afrique du Sud qui a battu à domicile l'Espagne 1-0.
Et l'Afrique du Sud qui n'est pas qualifiée quand
même.
L'Afrique
du Sud qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde.
C'est inquiétant, je pense, pour l'Espagne, parce que l'Espagne.
Le statut de favori, j'aimerais ne pas le donner, mais on n'a pas le choix. On est obligé de le donner à l'Espagne, puisqu'ils sont championnes du monde.
Hein. Sauf que les favoris,
mais
c'est
en plus, elles sont double championnes d'Europe.
Déjà, ils gagnent la Coupe des Confédérations à domicile.
3-0 contre l'Espagne, il faut rappeler. Déjà.
Donc voilà, mais 3-0 contre l'Espagne, ils ont fait 3-0 contre la France. Donc ça veut dire que la France, elle est pas loin de l'Espagne, puisqu'elle fait un partout contre l'Espagne. La France et l'Espagne, pour moi, ils ont le même niveau.
Mais non, oui, il y a quand même une différence de niveau.
Non,
ah, si.
Non, attends, ils vont faire un partout
en Espagne.
En Espagne,
ils vont. Combien déjà le but? 90.
Mais oui, mais ils l'ont mérité.
Il y aurait eu une victoire d'Espagne, t'aurais pas dit pareil.
Le but, ils l'ont mérité.
Ils l'ont mérité, oui. Parce qu'ils ont forcé tout au bout du match. Hein. Ils auraient mérité de s'imposer sur ce match. Hein. De très grosses occasions pour les Français.
Et l'Afrique du Sud qui n'a pas un jeu catastrophique.
Mais en tout cas, je préfère les Africains, enfin l'Afrique du Sud préfère ne pas aller en Coupe du Monde et battre l'Espagne, je pense.
Et aussi, moi je vois pas l'Espagne dépasser les phases de poule au Mondial.
Aussi,
ça dépendra sur. Ça dépendra sur. De toute façon, moi je pense que l'Espagne va perdre son premier match de phase de groupe. Ils ont souvent l'habitude de perdre le premier match.
Contre la Suisse, ils l'avaient perdu.
Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir un petit Suisse-Espagne. Ça serait assez bien.
C'est ennuyant.
L'Espagne a dans le groupe le Nigeria, ça peut être dur.
Ça va être dur pour eux.
Le Nigeria, ils ont fait quand même deux
partout contre l'Italie. S'il y a bien le statut où ils peuvent aller le plus loin, ils dépasseront pas les quarts de finale. Mais bon, ils ont ce statut de favori qu'on ne peut pas leur enlever puisqu'ils sont champions du monde. Les matchs de qualification à la Coupe du Monde. Hier, il y a eu des très gros résultats. Le duel Zlatan-Ronaldo et victoire de Ronaldo. 4 buts à 2, score cumulé naturellement. Alors, au bout du match, premier but de Cristiano Ronaldo, puis Ibrahimovic va marquer un doublé, puis...
Quelques minutes après,
Ronaldo va remarquer un doublé. Donc voilà, 3 buts pour Ronaldo, 2 pour Ibrahimovic, 4-2 pour Ronaldo, 2 pour Ibrahimovic. Score cumulé. Ibrahimovic a dit que voilà, il aurait aimé aller à cette Coupe du Monde, car une Coupe du Monde sans lui, c'est difficile cette année, puisque sachant que c'est un gros cadre. Il l'a dit que.
C'était sûrement sa dernière Coupe.
Oui, puisque à mon avis, je le vois pas aller jusqu'en 2018. Il participera peut-être à l'Euro, mais ça s'arrêtera là.
Il aura quand même 38 ans. 35 ans.
Mais on peut encore le faire à 35 ans. Coupe du Monde.
Mais en tout cas, il a dit, ce soir, les meilleurs ont gagné. Et c'est comme ça.
Mais je pense que...
Ça veut dire que Ronaldo est meilleur que Ibrahimovic. Oui. C'est ce qu'il a voulu dire. Et que voilà, et c'est pas le Portugal qui s'est qualifié, c'est Ronaldo qui s'est qualifié. Parce que le Portugal, en aucun cas, n'a montré du jeu. Le Portugal n'ira pas loin dans la compétition.
On a dit que c'était le Zlatan contre le Portugal, contre Ronaldo, que c'était la Suède contre le Portugal. C'était pas un match entre deux joueurs, c'était un match entre deux équipes.
Si la Suède s'était qualifiée, ça aurait fait pareil. Parce que la Suède, ils ont qui comme bon joueur?
Non,
à part Zlatan.
J'ai regardé pas mal d'actions
Kastrom,
du match.
Elmander.
Vous voyez, c'est pas mal d'actions collectives, des actions qui partent. Excusez-moi, Zlatan, ok, il marque les buts, mais il marque des buts sur des bonnes passes, alors que Ronaldo marque les buts sur... Il est obligé de marquer les buts sur des actions personnelles. Le Portugal sans Ronaldo, ce serait pas le Portugal déjà.
Premier but de Ronaldo, passe décisive de Moutinho.
C'est des passes longues à chaque fois qu'ils viennent.
Ouais,
bah
c'est toi-même des passes.
Là, c'est sur des petits périmètres, ils arrivent à se dégager. Pour moi, la Suède monte du jeu. Mais bon, Ibrahimovic a dit le meilleur. Les meilleurs ont gagné.
Mais je pense qu'Ibrahimovic peut dire adieu au Ballon d'Or.
Bah là, le duel est entre Ronaldo et Ribéry, sachant que le.
Et Messi, parce que Messi serait
Messi,
dans.
Non, mais si c'est
Messi, on va l'oublier un peu.
Si c'est Messi, ça sera truqué.
Donc,
de toute façon, je pense pas qu'Ibrahimovic vise le Ballon d'Or. Il gagne toujours un Ballon d'Or chaque année, c'est le Ballon d'Or suédois. Alors.
Il a dit que la Suède et le Paris Saint-Germain passaient avant le Ballon d'Or. C'est ce qu'il a dit, Ibrahimovic. Mais de toute façon, il y aura un duel Ribéry-Ronaldo. Du coup, les votes qui devaient s'arrêter le 15 novembre finalement s'arrêteront le 25 novembre.
Et les trois seront dévoilés le 9 décembre.
Donc, je pense que vous avez Ribéry,
avez
Ronaldo. Est-ce que Ibrahimovic peut venir troisième?
Oui.
Mais sans avoir sa chance de gagner le Ballon d'Or. Ce serait quand même logique qu'il vienne à cette troisième place.
Plus que Messi.
Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est bien là, cette année, c'est bien lui le troisième meilleur joueur du monde, c'est bien Ibrahimovic.
Mais Messi peut même être dixième, ça change rien. Il a gagné quatre fois le Ballon d'Or. Et en plus, il est blessé, donc.
Pas très réglo de toute façon, Messi. Mais voilà. Alors, autre résultat, la Grèce qualifiée 1-1 en Roumanie. Score cumulé 4-2. La Grèce qualifiée. La Croatie a fait 0-0 à l'aller en Islande. L'Islande s'incline 2-0. Alors là. Une Islande qui a fait un très gros match, mais qui se prend deux buts très bêtes. Une frappe de loin et une erreur défensive.
C'est la loi du sport.
L'Islande a une attaque a une attaque bien, mais sa défense aussi n'est des fois pas très rassurante. Elle l'a montré contre la Croatie, mais je pense que s'ils avaient marqué chez eux à l'aller,
ils pouvaient se qualifier.
Ils auraient été qualifiés.
Donc un doublé de Mandzukic. Et puis ensuite on va parler des résultats. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon pour la zone Europe. Oui. On va aller en Afrique, sur le continent africain. L'Algérie, Burkina Faso s'était imposé 3 buts à 2 à l'aller chez eux.
C'était difficile.
Malheureusement, 2 buts de l'Algérie au Burkina Faso et une victoire 1 but à 0 en Algérie de l'Algérie. C'est dur, puisqu'au final, c'est l'Algérie qui se qualifie. C'est tout un pays.
Mais apparemment, celui qui a marqué but aurait dû être exclu en première mi-temps.
Il aurait dû être exclu en plus.
Donc le Burkina Faso aurait été qualifié.
Donc ils sont très déçus, les Burkinabés.
Et alors puis ça aurait fait une autre surprise en Coupe du Monde.
Donc ça aurait été la toute première Coupe du Monde du Burkina Faso.
Donc comme vous l'avez su, le Nigeria, dans le week-end, s'est qualifié contre l'Éthiopie. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée dans le Sénégal alors qu'ils auraient pu se faire éliminer à la toute dernière minute. Et on va parler du dernier résultat. Alors, le Ghana s'était imposé 6-1 à l'aller. Maintenant, il faut savoir que moi, c'est ce que je pensais, c'est ma vision. Je pensais que le Ghana allait perdre en Égypte pour une seule et bonne raison, c'est que déjà, il ne voulait pas aller en Égypte. Sauf qu'il savait que s'il déclarait forfait, c'était l'élimination directe en même temps.
Et donc, ils ont laissé gagner l'Égypte.
Ils ont voulu laisser gagner l'Égypte parce qu'ils savaient que les incidents auraient pu être énormes s'ils perdaient. Parce qu'on connaît que l'Egypte dans le stade est très dangereux.
Mais si Ghana aurait gagné, ça n'aurait pas été de leur faute. Hein. Ils auraient été tout simplement plus forts que l'Egypte.
Bah, ils pensent un peu aussi à leur vie. C'est normal.
Le plus fort doit gagner. Hein.
Je les comprends. Bah, ils ont gagné. De toute façon, ils ont montré à l'aller qu'ils gagnaient 6-1. Donc, oui, défaite de buts à 1 au match retour. Boateng qui marque dans les dernières minutes. Aussi. Tout comme l'Égyptien qui marque un deuxième but aussi. Voilà pour les résultats. Le Mexique, d'ailleurs, ça vient d'être sorti. Hein. Victoire 5-1 chez lui. C'est incliné, Valentin. À 7h, le match a commencé à 7h du matin.
Oui, mais le Mexique a gagné 4-2 en Nouvelle-Zélande.
Voilà. Il a battu la Nouvelle-Zélande. Donc,
ça fait 9-3 sur l'ensemble des matchs.
Score cumulé, sachant que l'Uruguay affronte la Jordanie ce soir, minuit. Et l'Uruguay s'était imposé 5-0 en Jordanie. Il va falloir plus qu'un miracle, c'est même pas un mot qui se décrit pour la Jordanie, je suppose.
Oh bah c'est quasiment fait, ils tenteront leur chance dans 4 ans.
Alors on va parler des qualifiés en Europe. Vous avez l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Bosnie, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Grèce, la Croatie, le Portugal et la France. Les 13 pays européens sont qualifiés. En Amérique, Sud et Nord compris, hein. Le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Équateur. L'Équateur, qualifié. D'accord. J'aurais très préféré voir le Pérou, le Venezuela, mais très belle équipe.
Mais déjà, dans la zone Amérique Am Sud, c'est l'Uruguay qui ne méritait pas de se qualifier.
Les États-Unis, le Costa Rica, l'Honduras, le Mexique. Et ils ont mis l'Uruguay qualifié. Enfin, de toute façon, on peut déjà penser que l'Uruguay est qualifié vu sa victoire.
Ouais. Mais moi, je vois quand même une victoire de la Jordanie.
Je pense que
qualification de l'Uruguay. Une victoire de la Jordanie en Uruguay.
La Jordanie ne gagnera pas en Uruguay.
Donc je veux bien une victoire de l'Uruguay 6-0.
9 des 10 pays sont qualifiés. Normalement, les 10 pays cités là devraient être qualifiés. Je parle bien sûr de l'Uruguay qui est le dernier pays à se qualifier normalement. D'ailleurs, le Costa Rica, donc quand même, bon, une petite. Je veux pas dire non plus, c'est une petite surprise quand même. Tout comme la Bosnie. Mais c'est un travail qui a puisé, qui est finalement payant. Mais là où c'est impressionnant, c'est pas dans ces zones-là. Alors en Afrique, vous avez le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana et l'Algérie.
Ça, c'est pas des surprises. Donc, ce sont les meilleures équipes africaines.
Les tirages de 2010. Oui. Sauf l'Afrique du Sud qui était déjà.
Et le Sénégal aussi.
Qualifié. Le Sénégal n'était pas en Coupe du Monde de 2010.
Mais le Nigeria y était.
Oui, j'étais dans le groupe
de l'Argentine.
Dans l'Argentine, la Corée du Sud.
Ah oui, c'est vrai.
Et là, vous avez l'exploit, si on peut dire. Le Japon, la Corée du Sud et l'Iran.
Et l'Australie.
Et enfin, l'Australie dans la zone Océanie.
Non, l'Australie fait partie de la zone Asie.
Non.
Asie.
Ils font pas la coupe Océanie, ils font la coupe Asie, en fait.
Oh, c'est marqué au CN. C'est pas grave. Enfin, ils font partie du continent
au CN. L'Iran, oui, c'est une surprise parce que c'est leur première Coupe du Monde.
Bon, ils vont se faire sortir dès le premier tour.
Oui, mais au moins,
oui,
c'est bien pour
bon,
eux.
Au moins, ils sont au moins,
ils vont se prendre des tôles tout le temps, mais c'est pas grave.
Quel serait pour vous le groupe idéal pour la France et quel serait pour vous le plus gros groupe?
Alors, le groupe idéal.
On peut pas dire parce qu'on serait capable de mettre toutes les petites équipes avec la France.
Non, mais un groupe idéal qui peut produire du jeu, qui peut inquiéter les Français, mais qui peut aussi faciliter la tâche des Français. Le groupe idéal. On est dans une Coupe du Monde, rien n'est facile, toutes les équipes sont au même niveau, je considère ça, moi.
Bah, tu vas pas me dire que l'Iran est du niveau du Brésil.
À partir du moment où ils ont pu se qualifier, tout le monde est du même niveau. Après, les phases de poule montreront, je suis désolé, en ce cas-là, tu participes pas à une Coupe du Monde si tu penses que t'es pas du même niveau que les autres.
Mais moi, non, mais ils sont pas divisés, l'Iran.
France, le Costa Rica, le Cameroun, et l'Angleterre.
Le Nigeria.
Ah, ça ferait mal.
Non, le Cameroun, les États-Unis et la Suisse.
Moi, je vois bien la France. Le Costa Rica, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Moi, je vois bien l'Algérie et l'Iran.
Moi, le Brésil, la France, l'Australie et le Costa Rica.
En Brésil-France, ce serait tôt, là. Je préférerais voir ça en finale.
Ce serait très bien d'avoir au moins le Brésil et la France
d'ouverture.
Qui sont dans le même groupe en dernier match.
Comme ça,
les deux équipes gagnent leurs deux premiers matchs. Ouais. Mais les deux sont qualifiés.
Après aussi,
c'est
toujours le pays organisateur qui fait le match d'ouverture. Donc ils peuvent jouer d'abord la grosse équipe de leur poule en premier.
Et parlons du plus groupe, le groupe qui peut être le plus dangereux. Et pour les Espagnols, pour les Brésiliens, enfin pour toutes les grosses équipes en fait. Le plus gros groupe.
Pour moi, le Nigeria. Le Nigeria peut poser des problèmes à toutes les équipes.
Moi je pense que le gros groupe ce sera. Je vais donner deux gros groupes. Le premier sera un gros groupe, c'est Nigeria, Espagne, Brésil et Angleterre. Et dans le deuxième gros groupe, je mets l'Allemagne, je mets le Portugal, je mets l'Argentine et je finis par la Côte d'Ivoire.
Je mettrais le Japon, moi, dans un des groupes. Le Japon, c'est pas mauvais non plus. Hein.
Non, le Japon est une très très grosse équipe.
Moi, dans les gros groupes, je mettrais...
Mais moi, je vois bien dans le Japon, dans le groupe de la Colombie.
Dans les gros groupes, je mettrais l'Espagne, l'Italie, la Colombie et le Portugal.
Ça sera un beau groupe.
Il peut pas y avoir trois équipes du même continent dans la même poule.
Il peut pas y avoir.
Le Nigeria. Très bonne équipe.
Voilà, le Nigeria, c'est l'équipe qui fait peur, en fait, j'ai l'impression. Hein.
Moi.
Quand on est vainqueur de la CAN avec de la maîtrise, on peut avoir peur du Nigeria.
Il termine 3e de son Coupe des Confédérations. Bon, il avait quand même Tahiti dans son groupe, mais c'est sûr.
Pour moi, ça sera l'Allemagne, la Russie, le Japon et la Colombie.
Alors, on va vous reparler de l'équipe de France, et là, on va parler des journaux. Alors, dans les journaux. Il y a eu les mots respect, ressuscité, soirée magique, c'est bonheur retrouvé, hein. Et 1 et 2 et 3-0, triple ouf de soulagement, c'est le Brésil ou Samba do Brasilia. Et puis il y a eu un tweet de Step Blatter qui dit bel exploit, toutes mes félicitations. À l'équipe de France.
Puis c'était pas dans un titre de journaux, mais il y a une banderole au Stade de France, impossible n'est pas français.
Ouais,
ça c'est vrai.
Pas français. Alors que d'ailleurs, avant ce match, les journaux avaient ce slogan, faites-le. Et là aujourd'hui, ils l'ont fait. Au final, ils ont rempli leur contrat. D'ailleurs, ils sont allés arroser les journalistes après le match. Hein. Alors le Maine aujourd'hui a mis les Bleus l'ont fait. Le Ouest de France ont mis l'exploit des Bleus. Donc voilà pour ces slogans. En tout cas, les Ukrainiens nous se foutaient. Enfin, c'est difficile à dire parce qu'avant le match, il y avait beaucoup de moqueries par rapport à l'équipe de France. Ils étaient sûrs de gagner.
Mais quand vous menez 2-0 à l'aller et que vous vous déplacez en France, avec une confiance de, avec une confiance que vous êtes déjà qualifié, vous savez très bien que vous allez avoir des surprises et la France bah, les a surpris.
D'ailleurs, voilà, il y avait ces petites images, le coq qui est dans la casserole. Moi, j'ai plutôt envie de dire que le coq est dans la casserole, mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de le mettre dans le four. Hein. Il a le temps de s'échapper. Ou alors, c'est plutôt les Français qui ont plumé les Ukrainiens.
Oui. Oui, peut-être que avec leur jaune canari, oui.
Un très beau jaune, hein. Très beau maillot. D'ailleurs, ils ont les bonnets les plus moches du monde, en fait. Hein, on parlait français, mais en fin de compte, leurs bonnets sont numéro 1, hein. Voilà. Donc un exploit qui restera jamais gravé. Maintenant on attend une très grosse équipe de France pour ce mondial. D'ailleurs l'équipe de France qui affrontera au mois de février les Pays-Bas.
Gros match.
Et je pense que là ça va peu
En France je pense que ça sera un match test aussi pour la Coupe du Monde. Parce que s'ils les battent,
ils peuvent espérer être dans le dernier carré.
Oui. Et terminé devant les Pays-Bas.
En tout cas, on peut féliciter quand même les Ukrainiens qui ont fait un beau parcours, oui. Qui ont très très bien joué quand même.
Terminé derrière l'Angleterre, avoir gagné en Angleterre
à Wembley.
C'est pas. Ça réussit pas à tout le monde.
D'ailleurs, l'Allemagne l'a fait aussi. Et d'ailleurs, on peut les féliciter. Donc, ils ont quand même tenu une deuxième mi-temps entière à 10 contre 11. Ils ont tenu.
Ils ont encaissé un but, mais oui.
Et ils ont su être dangereux sur les coups de pied arrêtés tout au long du match. À 10 contre 11 ou à 11 contre 11. Et moi, je dis mes félicitations à cette équipe. Voilà, d'Ukraine. Hein. Alors, moi, il y a une chose qui m'a un peu surprise, c'est que l'entraîneur de l'Ukraine n'ait pas fait rentrer Timochuk.
Il l'a pas fait rentrer sur les deux matchs, je sais pas pourquoi.
D'ailleurs.
Il aurait dû le faire jouer au.
Parce que Timochuk, c'est le seul joueur de la sélection ukrainienne. Qui joue au-delà du pays.
Ouais. Pourquoi ? Il y aura peut-être Yarmolenko qui est.
Non, il joue en Russie.
Il y a Yarmolenko aussi qui est vu par pas mal de joueurs en Angleterre et Paris aussi veut Yarmolenko.
D'ailleurs, 80e sélection pour Ribéry qui l'a bien honoré. Hein. Donc voilà pour lui. Et on va parler. L'impression de monsieur Hollande, François Hollande, président de la République française, qui était au Stade de France. Voilà ce qu'il a dit. C'est la victoire d'une équipe qui s'est battue, qui y a cru, qui s'est rassemblée. En ce moment, les victoires, on y goûte. Particulièrement, on ne prend pas le chemin le plus direct en France. Le Brésil, c'est mythique. Il l'a dit, hein, les Français aiment se compliquer la vie. Je pense aux Français qui sont parfois en colère. Aujourd'hui, on a une victoire, il faut la savourer.
Des mots bien pour une personne qui n'y connaît rien.
Enfin, il aime beaucoup le foot.
Oui, mais il connaît rien. Quand tu l'interroges, il va te répondre n'importe quoi.
Donc voilà. Alors, pour vous, quelles auraient été les conséquences si l'équipe de France ne s'était pas qualifiée ?
Bah déjà, Deschamps qui s'en va.
Non, pour sûr ça.
Si, je pense que Deschamps serait parti. Il l'a dit, il serait parti de lui-même.
Il serait parti de lui, mec.
Je pense qu'il serait parti. Puis, bah, un nouvel entraîneur qui aurait, je pense, changé toute l'équipe.
Mon entraîneur, si Deschamps partait, j'aurais vu Zidane.
Les conséquences déjà,
non,
ça aurait été financières.
J'aurais pas vu Zidane parce que Zidane, il n'a pas l'expérience.
Oui,
vous
mais tu voudrais mettre qui sinon?
Laurent
Arsène
Blanc.
Wenger.
Ouais, Arsène Wenger, c'est l'homme idéal.
Ouais, mais il a dit qu'il voudrait pas partir d'Arsenal.
Pas pour l'instant. Il voulait pas partir en cours de contrat. Peut-être que s'il avait les propositions.
C'est sa dernière année
parce que lui,
de contrat.
Lui, l'équipe de France, il rêve de l'entraîner. Hein? Maintenant. Pour l'instant, il est Arsenal. Il se base sur Arsenal. Laurent Blanc, pareil, il n'est pas encore assuré de rester au Paris Saint-Germain. Mais il faut savoir que Zidane, ce serait une très mauvaise idée. Parce que, numéro 1, vous avez Laurent Blanc, entraîneur de Bordeaux. Première année, il remporte le titre. Il a de l'expérience, du coup, que ce soit en tant que joueur ou alors en tant qu'entraîneur, puisqu'il a joué la Ligue des Champions avec Bordeaux. Vous avez... Didier Deschamps, entraîneur de Monaco,
Juventus.
De la Juventus, et qui est allé à Marseille, qui a gagné le championnat à Marseille et beaucoup de trophées, et qui a un des plus beaux palmarès français.
Après, Zidane, le seul palmarès qu'il a, c'est en tant que joueur.
Voilà, et
il commence juste sa carrière d'entraîneur.
Et puis, c'est pas un grand palmarès. Et puis, attends.
C'est pas un grand palmarès.
C'est pas l'équivalent de Didier Deschamps. Et puis. Regarde la vérité en face quand même, parce que il est quand même seulement directeur. Il a été directeur sportif du Real Madrid.
Il est entraîneur adjoint du Real Madrid.
Il a été entraîneur adjoint du Real Madrid.
Il est toujours.
Il est toujours.
Il est toujours d'ailleurs.
Mais de Carlo Ancelotti, donc je pense que Ancelotti.
Il va apprendre avec Ancelotti, mais il n'est pas apte à être entraîneur de l'équipe de France dès les.
Regarde l'entraîneur. Regarde Willy Sagnol.
Dans 10 ans, moi, il sera apte, mais pour l'instant, non plus.
Hein? Regarde Willy Sagnol. Il est entraîneur, mais pour
moi. Mais il entraîne les espoirs.
Oui, bah quand même.
Ah oui, mais il est champion du monde espoir. Avec les espoirs.
Oui.
Pour moi, il était pas.
Après, Zidane, entraîneur de l'équipe de France espoir. J'ai jamais dit le contraire. C'est peut-être aussi une formation pour être entraîneur de l'équipe de France après. Hein. Pourquoi pas, à la rigueur, voilà, mettre Sadio, entraîneur de l'équipe de France, avec tout ce qu'il a réalisé. Si jamais Didier Deschamps avait pu être là.
Deschamps a prolongé jusqu'en 2016.
Donc là.
Je pense que s'il devait faire une mauvaise Coupe du Monde. Il partira.
Ils feront pas une mauvaise Coupe du Monde, je pense pas. En tout cas, oui, je serais lui, je partirais. Ce serait très grosse erreur de rester.
Les conséquences, ce serait déjà financier parce qu'il perdrait beaucoup de contrats.
En moins.
Des licenciés en moins. Puis la France.
Bah déjà, c'est des téléviseurs de vendus en moins. C'est des pizzas de vendus en moins. Et c'est ça paraît marrant, mais c'est vrai. Et c'est les journaux de vendus en mois, parce que le meilleur chiffre de l'équipe, c'était 1 500 000, je crois, de journaux vendus en 98. Et donc voilà, pour les conséquences, des très grosses conséquences. D'ailleurs, TF1 a acheté les 64 matchs, donc il n'en a pas laissé un à Beansport ou Canal+, ou encore aux autres chaînes, France 2, France 3.
En même temps, la Coupe du Monde, France 2, France 3...
En tout cas, ils ont acheté les 64 matchs pour 130 millions d'euros. Et ils ont dit que si la France s'inclinait, ils en mettraient 33 à vendre. Hein. Donc ça aurait été aussi une très grosse conséquence pour TF1. Mais ne parlons pas de conséquences, puisque l'équipe de France est là. Et l'équipe de France, au final, la fédération va gagner de l'argent par ses sponsors, puisqu'il a remporté.
Et au moins, ne fera pas les barrages pour l'Euro 2016.
On va parler donc quelques informations aux Coupes de France. La Suisse a battu Mulsanne 3-0. Sablé s'est incliné face à Brest 2-0. Berck s'est incliné contre Laval 3-0. Le Havre, Clermont, Châteauroux sont éliminés de cette Coupe de France. Et Nancy a battu dans la douleur Strasbourg.
Et Auxerre aussi. Hein. Auxerre a gagné 4-1 mais 3 buts en prolongation.
C'était une nationale, donc c'est pas le même niveau que Berck.
C'est quand même.
Et on va parler, donc voilà, donc Chris Paul qui a égalé le record de Magic Johnson établi en 1990 et 1991 avec son 11e doublé de suite de la saison. David Trezeguet lundi soir, son équipe des New West Boys s'est inclinée contre Tigre 2-1. Le Français a notamment marqué un penalty, longtemps leader du champion argentin. Le club passe deuxième à 3 journées de la fin. Et on va parler de Cristiano Ronaldo qui a dit... N'importe quel joueur aimerait avoir la chance et la joie de terminer sa carrière au PSG. Ronaldinho, 33 ans, fait un appel au pied des dirigeants d'un club où il a joué de 2001 à 2003. Est-ce qu'un retour de Ronaldo, du coup, pour terminer sa carrière ?
Ce serait plus...
De Ronaldinho, pardon.
Un coup comme ils l'ont fait avec David Beckham.
Il ira financier important, mais il a encore la technique déjà, puisqu'il va jouer le mondial.
Oui,
hein.
Normalement, Ronaldinho devait prendre sa carrière après la victoire en Copa Libertadores avec l'Atlético Mineiro. Mais il a préféré sa retraite.
Je pense qu'il va prendre sa retraite. S'il va à Paris, il va faire comme Beckham, il va prendre sa retraite à la fin de la saison.
Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés dans cette émission qui est très très passionnante avec cette victoire de l'équipe de France, on vous le rappelle. Et on vous dit à la semaine prochaine, c'était Fréquencié 97.9 FM. À la semaine prochaine.